plus de l'église.
On va pas y passer la nuit.
Ah, mollo sur le destroy.
Juste à gauche de Santa, au cul de l'église.
Et les gars, t'es mollo sur le destroy là.
On va pas y passer la nuit.
Ah bah non, on va quand même pas y passer la nuit.
Ah bah non, on va pas quand même y passer la nuit.
T'es bé où ?
Au cul de l'église.
On va pas y passer la nuit.
À la bonne heure.
Au cul de l'église.
Et moi, sur le destroy.
Mollo sur le destroy.
Bon, on va pas y passer la nuit.
Ensemble, unis, on pourrait faire de grandes choses. Si Dieu veut, un jour vaincra la rabia del pueblo.
On est les seuls à pouvoir bousculer les choses.
On va pas y passer la nuit.
Cul de l'église, mon gars.
Salut à tous, bienvenue dans les studios de Radio Saint-Afrique. J'ai l'immense plaisir de partager avec vous ce soir le premier live en soirée de ces nouveaux locaux.
Ouais.
Un crash test donc, juste histoire de voir à combien on rentre dedans. On va remettre ça tous les jeudis soirs si ça vous plaît. Ça s'appelle Au cul de l'église. Alors pourquoi au cul de l'église? Et bien avant tout parce que c'est vrai. Et si vous me croyez pas, venez donc vérifier par vous-même. Et aussi bien sûr pour te titiller un peu, toi qui approches la radio seulement une fois par semaine, le dimanche matin pour aller à l'église. L'antenne nous est ouverte pour une heure officiellement et ensuite on partira au fond du parking, après les camions, pour le off de l'événement. Petit clin d'œil en régie technique où les maîtres de l'ombre officient en silence mais pour le confort de vos orteils, j'ai nommé Jean et Fred. Pour cette première, j'ai l'honneur de recevoir en studio un plateau d'invités variés, donc avec certains invités sérieux qui nous présenteront des sujets et tout. Grégoire, bonjour et bienvenue dans les locaux de Radio Saint-Eff.
Bonjour.
D'autres sont moins sérieux, mais présenteront quand même des trucs, chroniques diverses et avariées. Salut Anselmo.
Salut, ouais.
T'as retrouvé ton papier ?
Non, je l'ai refait. C'est bon, ça va bien se passer.
T'es un chef, Momo. Et salut Pierre, comment ça va ?
Ouais, ça va.
Certains ne sont même pas invités, je sais pas trop ce qu'ils font là, comment tu t'appelles ?
Ah, moi c'est Loïc, enchanté.
Non, je blague, je t'ai déjà entendu présenter l'agenda, il me semble.
Ouais, quelques fois.
Et enfin, Rachidi, lui, je sais même pas s'il est censé être sur le territoire français, mais c'est pour cette même raison qu'il a une place de choix dans cette émission avec ses contes et ses histoires. Des histoires qui ne sortent pas de n'importe où, puisqu'elles servent à transmettre le savoir oralement, selon la tradition ancestrale des griots, sur les territoires du Burkina et du Mali. Ils ont la lourde responsabilité d'éviter aux jeunes générations de commettre les mêmes erreurs que leurs ancêtres. Rachidi, bonsoir et bienvenue dans cette émission. J'espère que je me suis pas trop avancé. Je vais tout de suite te laisser la possibilité de me compléter ou même me corriger s'il fallait. Mais avant tout, comment vas-tu, bien sûr ?
Merci. Déjà, pour mon arrivée à Saint-Afrique, c'est vrai que je suis clandestin. Mais comme j'ai entendu que c'est Saint-Afrique, je me suis dit, comme il y a le nom Afrique, ici, voilà, j'aurai ma place.
Eh bien, écoute, on espère qu'on t'accueille dignement.
Ouais, puis ça fait voilà. Un moment qu'on le voit dans les rues, là.
Ouais, ça compte.
Mais je suis devenu Saint-Africain.
Ils t'ont pas repéré encore, ça va ?
Ils m'ont pas encore. Non, comme je suis à Saint-Afrique. Donc, c'est un peu l'Afrique.
Ouais, il y a deux F juste.
Ouais.
Non, ouais, on va le gagner, deuxième F.
On peut oublier l'autre F là.
Ah oui.
Alors, avant d'entamer les hostilités, laissez-moi avoir une petite pensée pour Lison qui a eu son permis aujourd'hui. Bravo Lilith, t'es trop forte, tu l'as eu du premier coup, il m'a fallu 4 essais. Véridique, vous y repenserez si je vous propose de vous ramener de soirée. Et puis une discrète pour JP Auclair, pionnier de la pratique moderne du ski qui nous a quitté hier sous une avalanche. Tu l'as bien cherché, mon vieux. Bravo, belle fin.
On va pas y passer la nuit.
De l'église, mon gars.
Au sommaire de cette émission et dans l'ordre, s'il vous plaît, un ordre des choses qui n'a pas été simple à déterminer, tout simplement parce qu'on essaye. Il y aura donc Anselmo, notre cher Momo national, si le Saint-Africain est considéré comme une patrie. Mom, je t'en prie, à toi la place.
Du coup, c'est à moi, donc voilà, je viens de terminer. Donc on va envoyer une petite virgule, si tu veux bien, Jean.
On va pas y passer la nuit.
Cul de l'église, mon gars.
Merci, mais c'est pas celle-là que je voulais. Vous voyez l'autre, sinon.
Voilà.
Au cul de l'église, les gars. Moi, je dis au cul de l'église, c'est simple, non? Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire, la dentelle et compagnie? Enfin, dentelle, il n'y a pas que de la dentelle, hein. Subversif, ça oui, et pas que. Alors, c'est parti! Il y a un de ces mondes là-dedans! Du beau monde, hein. La crème même! Et le tout en direct. Alors le direct, c'est que quand on parle, vous m'entendez. Genre là, vous m'entendez. Et que si je dis des conneries, elles seront pas coupées. Donc si je dis « allez tous vous faire foutre », bon ben c'est pas correct, j'en conviens. Mais vous l'avez entendu, non?
Non.
Non?
Si, si, non. Puis on est au cul de l'église et on peut tout entendre là.
Ah d'accord. Bon, c'est pas une raison pour en faire une affaire personnelle, hein. C'était juste une démo là. Donc ça, c'était une virgule un peu loupée, mais bon, on va continuer.
Ils sont exigeants, ces bénévoles, c'est dingue.
Ouais, c'est vrai. Hein.
Ce sont les aléas du direct.
Merci. Continuons. Notre maire n'est plus sénateur. Oh. Quel drame. Il s'est ramassé. Bon, pas que ça me réjouisse, hein, mais il va peut-être bien enfin s'occuper de nous. Je dis nous enfin, ou de la vilotte, hein, comme ils l'appellent. Marc et Luche, ils sourient de toutes leurs dents. Et sache qu'ils sont, elles sont très très longues, ça va rayer le carrelage. Le Rial a été cambriolé. Malheureusement, il n'y avait plus rien à prendre. On a donc décidé de le mettre en vente. Donc, pour les visites, la communauté de communes pense acheter un hélico. Et pour les gamins, ben, ça sera fun d'aller à la piscine par les airs. Hein. Au cul de l'église, on y fait du brun, on y fait du bruit et de la radio. Ouais, j'assume. La ville lance une saison culturelle. Alors au programme Galabru, c'est moins cher pour la miséricorde. Des marionnettes pour les enfants. Si vous êtes adulte, c'est plus cher. La résurrection de Nougaro, un festival latino. J'ai même vu le Père Noël et de petits bonhommes en mousse. Bon, trêve de sarcasme, place à la culture. Bon, on est au cul de l'église, alors on fout le bordel! Ah oui, j'allais oublier, l'ambiance. Alors, c'est pas le séminaire, mais presque. Je pensais ça plus rock'n'roll, hein. La coque et les filles, on oublie. Bon, je dis les filles parce que tout le monde est bénévole ici. Et puis, je voudrais pas passer pour un misogyne. Voilà, j'en ai fini, ou presque. Je voulais souhaiter la bienvenue au lieutenant Fort et nos adieux au capitaine Crochet. Et mon cœur de Peter Pan se serre à l'annonce de cette triste nouvelle. Bon appétit les crocos, ciao!
Oui, merci beaucoup Momo. Voilà, je voudrais quand même en placer une petite avant de poursuivre l'émission, présenter mes excuses à Gilles qui donc nous a rejoint juste avant le lancement et que donc j'ai oublié de...
Je fais partie des meubles, tu sais, je fais...
Ouais, c'est ça.
Je vais avec la régie technique.
C'est le micro fantôme.
Vous pouvez pas vous passer de moi, c'est pas possible.
On a quand même eu un bon coup de nettoyage, sortir derrière les placards et tout. Donc voilà, très content de t'avoir avec nous, Gilles.
C'est gentil, je trouve que c'est une émission très cul, hein, en fait, qui me va très bien. Au cul de l'église, tu titilles, tu introduis, à combien on rentre, il y a plein de sous-entendus.
Ouais, mais il y a que des mecs, alors.
Voilà, c'est... il m'a chopé ma, tu vois, ma chute, c'est dommage.
Les émissions non mix, là, ça va pas le faire.
Il n'y a qu'une seule fille qui est dans la régie, et la pauvre...
Il y en a une
que j'avais pas vu arriver.
Mais il faut dire, il y a un monde fou.
Bon,
ici,
elles ont du souci à se faire, quoi.
Justement, appel donc aux bénévoles motivés quant à...
Des filles qui ont de la gueule, un peu, voilà, qui ont des bouches, qui ont des trucs à dire.
Ce serait bien, histoire qu'on passe pas que pour des machos, voilà, effectivement. Alors, c'est pas fini, ça vient juste de commencer. Restez avec nous, on repart de plus belle juste après la pause musicale. La pause musicale, c'est une petite découverte de Jean sur SoundCloud. Le titre s'appelle The Turbine Hall et c'est réalisé par Guillaume. Pardon, donc l'artiste répond au nom de Gio et c'est un titre de son dernier album que l'on se paye, Turbine Hall. We'll be right back.
Et on vient d'entendre au cul de l'église The Tribune Hall de J.O. Et maintenant, Rachidi, on va te laisser nous décrire ton petit code musical. Voilà, à toi, Rachidi.
Merci. Merci, comme vient de dire Antoine, les contes et légendes étaient utilisés autrefois pour enseigner la sagesse et la bonne moralité. En disant à ceux d'aujourd'hui de ne pas commettre les mêmes bêtises qu'on raconte dans les contes et légendes. Avant les écoles, avant les radios, les griots utilisaient les contes et légendes pour enseigner, pour informer et pour apprendre les gens à dire non quand il faut et à dire oui quand il faut. Ce conte, c'est pour lancer un conseil à ceux qui exploitent la terre d'une manière surexploitée et ne pas faire attention à ceux qui vivent sur cette terre, que ce soit les humains et les animaux. Lui, c'était un agriculteur qui était têtu. Toute sa vie est reposée sur le rendement. Toute sa vie est reposée sur son économie. Il a perdu le sourire à force de chercher, à faire du rendement. Cet agriculteur a comploté et il a fait partir un village afin de pouvoir venir cultiver sur cette terre. Si gâté n'était pas gâté, puis gâté avec gâté, gâté ne serait pas gâté. C'est parce que c'est gâté que c'est gâté. Les villageois sont partis parce qu'ils n'avaient pas le choix. Quand on perd toutes nos armes, il nous reste deux choses. Notre bouche pour gueuler et notre pied pour se barrer. Ces villageois sont partis parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas la force de convaincre. Ils l'ont laissé faire. La nature, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ils ne payent pas le même jour, mais ils payent à long terme. Ce qui est dommage, c'est quand t'en fous la merde. Après, il y a ceux qui sont proches de nous, se retrouvent dedans. Lui, il a chassé le village. Il est venu avec ses vaches, ses animaux pour cultiver cette terre. Il a fait sa culture. Le premier jour qu'il est arrivé, il a semé. Dès qu'il a posé son sac de maïs et il a commencé à semer, en même temps, le sac de maïs s'est vidé et il lève la tête, il voit que tout le champ a été semé. Il dit voilà, les gens ils disent que ouais, je ne pourrai jamais puisque ces villageois, ouais, il y a les esprits de la terre qui les aident, il y a les esprits de la nature qui les aident parce qu'ils avaient du respect envers cette nature. Ils s'étaient confiés à la nature en tant que leur mère, en tant que là où ils viennent. Et voilà, on les a arrachés de ça. Lui, il rentre, il était tout content. Il dit, voilà, le travail se fait tout seul. Ah, j'ai trouvé un bon coin. Il rentre chez lui, le lendemain, il vient trouver que tout a poussé. Tous les maïs ont commencé à porter des bébés au dos.
Il dit, ah bon? Waouh! J'ai semé le maïs hier. Le maïs a déjà poussé. Jusqu'à ce que ça porte déjà des enfants. Ah ouais, ici c'est trop bien. En même temps, le maïs l'a répondu. Tu m'as semé pour que je pousse, non? Ah! Il avait son chien avec lui et il avait son sac à dos. Et il tenait son bâton. Il tourne, il regarde le chien. Le chien dit, ne me regarde pas, c'est pas moi, j'ai dit, hein. Waouh, le chien m'a parlé. Le maïs m'a parlé. Il a commencé à flipper. Prrr. On entend prrr. Mais on sait pas qu'est-ce qu'il fait prrr. Juste, c'était ses talons qui cognaient sa tête. Tellement qu'il allait vite, ça faisait prrr. Il court. Arrivé devant maintenant, il s'arrête. Il voit qu'il y a le chien qui le suit toujours. Le chien qui a parlé. Il prend son bâton pour taper le chien. Le bâton dit, attention, je ne veux pas que lui me morde avec sa sale gueule là. Waouh, il jette son bâton. Il se met encore à courir. Prrr. Il part croiser son copain qui était dans la brousse en train de chier diarrhée. Il arrive, son copain lui dit, hey, mais attends, il y a quoi les grands cultivateurs? Il dit, moi je parle pas à quelqu'un, là aujourd'hui j'ai chaud. Il dit, viens, mais je vais t'aider. Il fait demi-tour, prrr, pouf, il vient, il s'arrête. Il dit, il y a quoi? Ouais, tu sais ce qui m'est arrivé? Là où j'ai fait partir le village là, je suis arrivé, j'ai semé mon maïs. Et le jour que je semais là, tout maïs là s'est semé tout seul. Le lendemain, je suis arrivé que le maïs a poussé et ça a porté des bébés en même temps. Je me suis étonné. Et quand j'ai dit, waouh, le maïs a porté des bébés en même temps, le maïs là m'a parlé. Le maïs m'a dit, tu m'as semé pour que je pousse, non? Et je tourne pour regarder mon chien. Mon chien m'a dit, c'est pas moi j'ai dit, c'est le maïs qui a dit. Mon chien aussi m'a parlé. Je prends mon bâton pour taper mon chien. Mon bâton aussi m'a parlé que lui, il a peur que lui va se mordre, le chien va le mordre avec sa gueule là. Le copain dit, hey, juste pour ça, toi, tu as peur? En ce moment, lui, il était assis sur sa diarrhée. Sa diarrhée la répond, même si c'est toi, tu vas pas avoir peur. En même temps, c'est devenu des prrrr. Il y a un qui faisait prrrr, il y a un qui faisait prrrr, et ils se suivaient. Donc, ils courent, ils arrivent sous un arbre. Ils s'arrêtent. En ce moment, il avait son sac à dos. Son sac à dos dit, ah, il était temps que tu t'arrêtes. Parce que ma toux là allait commencer à me déranger. En même temps, il enlève son sac à dos encore, c'est prrr, prrr. Donc, c'est pour ça qu'on dit, faut éviter de faire du mal à l'être qui vit sur la terre. La terre et ses vivants, ils sont tous à respecter. Si tu insistes que tu vas faire le pire à cette nature, un jour, ça peut retomber sur toi. Mais ce qui est dommage, tu vas embarquer d'autres personnes là-dedans. Mais les gens, quand tu vois quelqu'un qui a semé sa mère et qu'il est en train de récolter, il faut lui faire savoir que c'est ta mère qui a semé et tu récoltes. Donc, il ne faut pas sous-estimer aussi. Donc, parce que son copain a sous-estimé la merde que lui, il a récoltée, que voilà pourquoi lui aussi, sa diarrhée lui a parlé. Donc, c'était le conte du grand cultivateur. Avec Rachidi Yomba.
Wow, voilà, bravo.
Sur Radio Saint-Afrique.
Au cul de l'église. Et au cul de l'église, bien sûr.
Merci beaucoup, Rachidi.
Ouais.
Un sujet
bravo. Là, il nous a embarqués, on était au Burkina, là.
Là, c'est clair. C'était énorme.
Ouais, on voyage.
Ouais. Puis c'est quand on voit aujourd'hui dans l'actualité, on voit qu'au niveau de l'agriculture, il y a beaucoup d'attaques. De l'environnement. Quand on attaque l'environnement, il faut savoir qu'on attaque les animaux, les humains, et on attaque même tout ce qui est autour de nous. Donc, je pense que c'est un sujet à parler. On dit que le pire n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais c'est le silence des gens bien. Donc, ceux qui pensent qu'ils sont bien, ils n'ont qu'à parler.
Ça, c'est sûr.
Bravo.
Au niveau de l'agriculture, c'est vrai que...
Bon, je vais dire un truc, du coup.
Vous battez pas, alors, pour justement rebondir sur ce sujet-là, on a un invité tout particulier, donc j'ai plus mes feuilles devant les yeux, je vais essayer de m'en sortir comme ça. Grégoire, tu connais
vas-y, impro,
un exemple de ce sujet sur le bout des doigts.
Tout à l'impro, oui.
On est tous friands d'en entendre.
Les gens que tu as rencontrés là-bas devraient prendre de la graine, c'est le cas de le dire.
Non, mais je sais pas où je suis tombé là. Oh là là, la caricature, Radio Saint-Afrique, les contes africains, les vieux cheveux lus.
Le Saint-Africain.
Le Saint-Africain. S'il vous plaît.
C'est lui.
Et voilà, on fait venir les gens exprès de la ville, rien que pour ça. Non, franchement, moi, je vais vous parler du progrès, de ce qui va faire avancer cette humanité. Je vais vous parler du barrage, du testé, messieurs, dames. Ben oui, bien sûr, ce fameux barrage qui est en train de se construire dans le Tarn. Enfin, enfin, c'est même Manuel Valls, notre excellent Premier ministre, qui disait que c'est pour cela que nous avons tenu bon à Sivens. Il le disait aux jeunes agriculteurs. Les travaux de ce barrage vont enfin pouvoir commencer, qu'il se félicitait début octobre. Début novembre, septembre. Allez, je suis bien perdu. On est parti à l'autre bout du monde et on s'est perdu. Septembre.
Non, tu dis octobre puisque c'est ma date de naissance.
Alors, le barrage de Sivens, pour ceux qui ont pas entendu parler et connaissent pas, c'est quoi ? Eh bien, Sivens, c'est un barrage dans la forêt de Sivens. Ça se situe un peu au-dessus de Gaillac, pas loin de l'Isle-sur-Tarn. Un barrage qui est prévu.
Un projet de barrage, oui.
Ouais, enfin là, aujourd'hui, on est dans le chantier, donc on arrive vraiment dans le dur, quoi. Un projet qui est prévu depuis 69. Ils avaient déjà envie de faire des zones touristiques. Et puis, depuis 2001, une certaine compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne a fait un rapport préconisant de construire des barrages, justement, pour sauver la ressource en eau, parce que vous comprenez, réchauffement climatique, la ressource en eau s'épuise, donc il faut faire des barrages. Et des barrages pourquoi ? Ben, d'abord pour maintenir le débit d'étiage et ensuite pour l'irrigation. Alors le débit d'étiage, pour faire simple, c'est qu'il y a une laiterie et une station d'épuration qui polluent la rivière du Tescou. Et donc, pour soutenir le débit d'étiage, on va augmenter le débit de l'eau pour diluer les pollutions.
Ah, on va diluer la merde.
Voilà, diluer la merde pour rentrer dans les normes.
Pour que plus de monde en profite.
Exactement, et puis que ça arrive à Montauban en plus grosse quantité.
Bon appétit.
Et puis...
Ouais, mais plus dilué.
Voilà, plus dilué, donc légal, il n'y a pas de souci. Et puis l'autre souci, c'est l'irrigation. Et l'irrigation, comme on le sait bien, il faut installer les agriculteurs, il faut nourrir le monde, il faut des OGM. Je tiens à le dire sur cette antenne, il faut modifier génétiquement les humains. Et donc, pour soutenir les progrès en agriculture, il faut soutenir l'irrigation. Alors le problème, c'est que à la base, il y avait 84 agriculteurs qui étaient concernés. Mais le souci, c'est que sur 84, en fait, il n'y en a que 25 qui vont réellement en bénéficier. Donc, on a fait un petit calcul avec les copains. Ça, pour un coût de 8 millions d'euros pour ce barrage, pour 1,5 million de mètres cubes sur 29 hectares, ça fait quand même du 200 000 euros par ferme, quoi. Alors, donc, à ce prix-là, on pourrait peut-être aussi installer des maraîchers, des jeunes agriculteurs en bio ou en d'autres formes d'agriculture. Mais bon, le débat ne se pose même pas, puisque ce projet passe en force depuis maintenant 3 ans. Une association locale a commencé à contester sur le plan juridique et légal. On lui a envoyé se faire voir. Et puis depuis octobre 2013... C'est des groupes de chevelus, peut-être aveyronnais, je ne sais pas, qui ont débarqué sur place.
Mais pas ça.
Qui sont débarqués sur place.
Non, je trouve qu'on n'entend pas trop parler en Aveyron, justement.
Non, ouais. Il y a des Tarnais mais aussi sympas, voilà. Peut-être.
C'est un peu des Tarnais, quoi. Il faut dire que c'est un peu des Tarnais, donc bon, c'est un peu l'autre côté de la frontière, on comprend bien. C'est des gens de l'Ouest. Donc, il y a des Tarnais qui occupent la Métairie Neuve, c'est une ferme qui est située sur la zone, et qui ont fait une zone à défendre, une ZAD, un peu comme Notre-Dame-des-Landes. Et du coup, ils ont occupé. Ils sont fait d'abord expulser par des groupes cagoulés, probablement proches de la FNSEA. Et puis, au mois de mars, leur occupation a permis quand même de retarder les travaux. Donc d'abord, des travaux de prélèvement d'espèces protégées, parce qu'il y a quand même 94 espèces protégées sur place. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça ? On va les prélever, puis on va les mettre un peu plus loin. Comme ça, on les protège. Alors, on en prélève certaines, on ne sait pas combien et comment.
On sait que ça ne marche pas. Ça.
Mais voilà, ça ne marche pas. Ça marche pas.
Et puis, elles sont dans un environnement qui leur est bien propre, là où elles sont maintenant.
Elles sont justement au testé. Et justement, le testé, c'est une zone humide. Alors, il faut savoir que c'est 12 hectares de zone humide boisée. C'est une des plus grosses zones humide d'un seul tenant qu'il y a comme ça dans le coin.
Qui
avait. Parce que justement, tout a été complètement ratiboisé par la force là, depuis début septembre.
Ah oui, ils sont passés.
Et depuis hier, depuis lundi, ils ont attaqué le décapage. C'est-à-dire, ils ont amené les machines pour arracher les souches et faire table rase pour construire leur barrage.
Ils enlèvent les racines.
D'accord.
Alors face à ça, bah, ça se bouge quand même. Donc cette occupation reprend de plus belle, a tenté tant bien que mal de repousser les machines. Mais ils ont eu face à eux des gentils gardes mobiles hein, qui sont là pour assurer le respect de la loi et de la bonne avancée des projets.
Et de l'environnement.
Et non, pas pour le coup, tu vois.
Ça dépend des ordres.
On a vu des images quand même de temps en temps, peu, hein, il faut dire, il y a eu peu de reportages sur les médias classiques, mais on a vu des gens qui résistaient en montant, en campant dans les arbres et en refusant de descendre pour éviter justement que les bûcherons bousillent tout, quoi.
Voilà, bah, il y a eu d'abord des gens donc, en campement sur place dans des campements, ensuite des gens qui grimpaient dans les arbres. Alors, il faut savoir que les gendarmes ont été assez sympas, puisque quand les gens étaient dans les arbres, ils coupaient les branches en dessous pour que les gens restent bloqués là-haut et puis que s'ils descendent, ils puissent plus remonter. Il y a eu aussi des histoires où ils ont brûlé régulièrement les affaires dans les campements qu'ils évacuaient. Donc voilà, 20 000 euros quand même d'effets personnels à peu près ont été évalués comme étant détruits. Donc, ils montent dans les arbres. Il y a eu même, c'était le 2 septembre, des enterrés, des gens qui ont creusé dans le sol. Et se sont enterrés, vivants, hein, bien sûr.
Oui, pour éviter les bulldozers.
Pour bloquer l'avancée des bulldozers. Malheureusement, ils se sont fait charger quand même par les gardes mobiles. Et il y en a une fille notamment qui est tombée, qui s'est évanouie et qui a dû être évacuée. Elle s'est réveillée une demi-heure plus tard, donc c'était plus de peur que de mal. Mais voilà, c'est quand même sacrément violent ce qui se passe là-bas. Faut quand même.
Mais quand on t'écoute, on a l'impression que c'est un peu râpé. Ça y est, ils sont passés, c'est fini bah, ou...
C'est pas fini, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que tous les recours juridiques qui suspendaient le projet ont été épuisés. Ont été retoqués ou reportés sur d'autres juridictions, donc à perpète. Sur leur place, l'opposition frontale de terrain, ça n'a effectivement pas marché face à force policière. Par contre, il y a des choses qui ont marché. C'est par exemple les lycéens de Gaillac, d'Albi, de Castres même, qui ont décidé de bloquer leur lycée en soutien aux opposants du DST. Et ils ont fait ça pendant une petite semaine au milieu du mois de septembre. Puis il y a les soutiens qui arrivent, des associations environnementales, des gestionnaires de zones humides du Tarn, puisque le Tarn protège ces zones humides ailleurs, et donc ils ont dit, ben, on ne comprend pas pourquoi vous bousillez cette zone humide-là, et vous protégez les nôtres, tant qu'à faire bousiller les toutes, quoi. Et puis il y a aussi le soutien d'associations, d'attaques, la Confédération Paysanne, quelques partis comme le Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts, voilà, qui viennent.
Et des agriculteurs locaux aussi, je crois.
Alors, ça dépend. Il y a des agriculteurs locaux qui sont pro-FNSEA, qui pensent qu'ils vont pouvoir pomper dans ce barrage pour alimenter leur agriculture.
Non, mais il y en a qui sont contre.
Donc, c'est les locaux-locaux.
Voilà, c'est les locaux-locaux. Et puis, il y a des locaux, mais moins locaux, enfin moins vus comme tels, qui sont contre ce projet. Notamment un agriculteur, Monsieur Lacoste, qui a prêté ses terrains pour des rassemblements, et qui, lui, est contre ce projet depuis le début, qui s'est fait chipper 7 hectares de terre qui ont été refilés aux voisins en compensation des expropriations qu'il y a eu. Donc, il a beaucoup apprécié la chose. Et puis, qui dit, mais ça ne sert à rien de construire un barrage pareil. Il n'y a pas assez de débit. On ne remplira jamais ce barrage. Il coûte trop cher. Et puis, je ne vous ai pas parlé des conflits d'intérêts, hein, des gens qui sont dans l'agence de l'eau, dans l'entreprise et au conseil général. Il y a également, on a découvert ça cette semaine, qu'ils ont oublié de faire les fouilles archéologiques préalables.
Ah, dommage.
Donc, sauf que le site a été, depuis 1950, on sait qu'il y a des silex, du paléolithique. Donc, un beau truc sympa.
Mais
ils vont
le faire à la pelleteuse, sûrement, les fouilles archéologiques.
Ah non, tu crois pas si bien dire, parce qu'à la pelleteuse, dans un jugement, justement, où on contestait un autre aspect, c'est le défrichement, puisqu'ils ont aussi coupé les arbres et enlevé les souches sans autorisation. Et il y a un avocat de l'entreprise qui a dit, oui, mais vous comprenez, on était obligé de couper les arbres pour pouvoir ramasser les grenouilles. Alors, le problème, c'est qu'ils ont fait ça tellement bourrin qu'il n'y avait plus de grenouilles après. Donc, oh effectivement... Donc ça, c'est le projet de barrage de Sivens, qui n'a pas franchi la frontière, malheureusement, comme information, mais ils ont besoin de soutien. Et
c'est juste une retenue d'eau ou s'ils veulent faire de l'électricité aussi?
Que dalle.
Il n'y a pas de turbine.
Non, la ministre était encore moins bien informée que l'Aveyron, puisqu'elle a complètement raconté des stupidités, Ségolène Royal. Non, ce n'est pas un barrage hydroélectrique, ce n'est que de l'irrigation.
Une réserve de flotte, quoi.
Voilà.
Et pour beaucoup, ils plantent du maïs, enfin, ils veulent planter
du
maïs.
Ah oui, essentiellement, sur les 25, c'est du maïs intensif. Donc, des propriétaires du Tarn et du Tarn-et-Garonne jusqu'à Montauban, là dans la plaine, Et c'est du maïs semence subventionné et dont l'irrigation est subventionnée. Alors le souci qui peut arriver, c'est qu'il y a des financements pour ce projet, tous publics. Donc il y a l'Europe, l'Agence de l'eau et les conseillers généraux. Et l'Europe a commencé à dire, oula, attendez, mais vous voulez dire que vous faites un barrage pour financer l'agriculture intensive ? Ouais, mais alors là, c'est plus les objectifs de la PAC. C'est plus les objectifs de la nouvelle PAC qui se discutent. Et donc, attendez, on va peut-être regarder. Et les fonds de 2 millions d'euros qui ont été alloués par l'Europe sont en train d'être suspendus. Et par ailleurs, l'agence de l'eau est en train de se dire « Ouais, on va peut-être vous donner les fonds, mais on va attendre que la mission d'expertise du gouvernement dise si ce projet est vraiment machin ou pas. » Donc en fait, ils sont en train de faire un projet à marche forcée, de manière illégale, sans avoir les financements. Tout ça pourquoi ? Bah, pour quelques agriculteurs de la FNSEA. Voilà la belle histoire.
Il y a quelques bonnes nouvelles dans la fin, là, parce que c'est pas fait. Le problème, c'est le fric, c'est toujours
voilà.
Tout ça voilà, pour brasser des milliards d'euros. Quoi.
En attendant, la zone humide, elle est en train d'être bousillée. Par contre, le barrage, il y a peut-être des chances qu'il ne se fasse pas. Et puis, il y a aussi quand même le fait que la pression monte. Là, hier, les grands médias ont commencé à en parler. Canal, Arte, voilà, on fait des reportages. Et on sent que ça bouge.
Moi, je voudrais dire à tous les Saint-Africains et Saint-Africaines qui nous écoutent, et puis tous les Sud-Aveyronnais, et puis tous ceux qui nous écoutent sur Internet, qui pourraient se bouger un peu le cul, parce que beaucoup de gens se sont bougés pour Notre-Dame-des-Landes, mais là, pas trop, j'ai l'impression que ça frémit, alors que c'est juste à côté, quoi.
Alors que ça va un peu loin, oui.
Hein, il n'y a pas beaucoup de routes à faire pour aller soutenir la ZAD.
Ah, non, c'est aussi loin que c'est moins loin que ceux de Toulouse, quoi.
Voilà. La preuve, Greg est venu d'ailleurs. On te remercie d'avoir franchi la symbolique barrière du Tarn.
Ah, attends, et passer les monts de la Cône là.
Non, c'est vraiment pas loin et ils ont vraiment besoin de monde, quoi. Il faut que les gens se déplacent.
Ah oui, bah après il y a le fait aussi qu'effectivement c'est un peu tard là sur le terrain, il y a besoin de soutien, il y a besoin de piles, il y a besoin de duvet, il y a besoin de petites radios, des choses comme ça sur le terrain. Toutes les infos vous les avez sur le site, tant qu'il y aura des bouilles. wordpress.com. Les bouilles, c'est le nom dans le Tarn qui donne pour ces zones humides qui ne servent à rien. Entre
tant qu'il y aura des bouilles.
Tant qu'il y aura des bouilles, wordpress.com. Mais justement, je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, me fait signe en régie une invitée exceptionnelle, c'est que effectivement, les zones humides, on en parle assez peu, voilà. À part les dessous de bras, on ne connaît pas trop. Sauf que les zones humides, en fait, c'est un truc assez génial, puisque mieux qu'un barrage, les zones humides. Parce qu'une zone humide, ça te permet de garder l'eau quand il pleut trop. Genre, ce qui s'est passé dans le midi, ben, ça se passe pas dans d'autres endroits parce que tu as des zones humides pour garder l'eau. Et puis, ça permet aussi de relâcher un peu d'eau en période de sécheresse.
Ça fonctionne un peu comme une éponge.
C'est une superbe éponge. Ça coûte pas...
Naturel.
Naturel. Pas besoin de faire un barrage. Et en fait, c'est beaucoup mieux pour garder de l'eau et alimenter en eau en aval que n'importe quel barrage qui, lui, va être tellement grand que ça va s'assécher, quoi.
Voilà. Et puis, récemment, dans tous les grands médias, on pleurait sur le fait que beaucoup d'animaux sauvages ont disparu en 40, 50 ans. Il y a 50% donc des éléphants, de choses comme ça. Mais aussi dans les zones humides et dans les cours d'eau, notamment. Ouais. C'est là où il y a le plus de disparitions d'animaux sauvages de tout genre. Mais alors, ce sont des batraciens, c'est des petits poissons, c'est des choses comme ça qui disparaissent.
Et voilà, il faut dire que dans les zones humides, c'est du coup, arrête-moi si je me trompe, Greg, un des endroits où, qui conserve la biodiversité.
La biodiversité.
C'est plus riche
dans les milieux. Exactement.
Alors, déjà que voilà, donc en temps normal, ça abrite quand même un nombre impressionnant d'espèces différentes. Dans un contexte comme celui dont on parle au barrage de Sivens, ça abrite en plus une espèce qu'on connaît bien, donc avec tous ces mecs dans les arbres, dans leur cabane et tout. Et il me semble pas avoir rêvé. Quant au rapprochement qu'il peut y avoir entre l'histoire de notre cher Rachidi.
On est complètement dans le sujet. On espère qu'ils vont tomber dans leur caca.
Non seulement on ravage cet espace, mais en plus on manque de respect et on ravage aussi vie et les convictions de certaines personnes qui s'engagent.
Et c'est vraiment un truc qui paraît pas dans les articles parce que c'est dur à retranscrire, qu'on a pu écrire ici ou là, ou à la télé. Mais dans cette lutte, il y a vraiment un côté côté hyper humain et j'allais dire même terrien, puisque beaucoup de gens qui sont là-bas ne sont pas des militants professionnels comme on les décrit parfois. Certains sont arrivés de Notre-Dame-des-Landes, mais à la base, c'est surtout des gens du coin, quoi. Et c'est des gens qui disent, mais moi, je suis là pour sauver des arbres, pour sauver des espèces protégées, parce que j'aime pas qu'on bousille la nature. Et il y a même des gens qui sont psychologiquement affectés parce qu'ils ont vu sous leurs yeux la zone humide se faire bousiller et ça les rend mal, quoi. Ils se sentent atteints, ça les touche. Et il y a un côté comme ça, ayant suivi moi jour après jour le déboisement et tout, c'est vrai que ça fait tout drôle de voir ce grand champ énormément plat, là où une semaine avant, crapahuté dans les ronces et le bordel, pour échapper aux lacrymos qui couraient derrière. Il y a quelque chose de viscéral, quoi, qui te touche. Et que là, par contre, c'est plus dans l'ordre du rationnel, des arguments qui sont... Enfin, de toute façon, tous les arguments montrent que ce projet est stupide. Mais même au-delà de ça, au-delà des arguments, allez jeter un œil là-bas. Allez voir, hein, c'est à côté de Gaillac, il y a des covoiturages réguliers. Et vous verrez ce que ça fait, discuter avec les gens qui sont... ils sont gentils, parfois trop même. J'avais en dire
parce y aller au moins pour être curieux, tâter l'ambiance, voilà. Aussi un peu voir, oui, voir oui, ce qui s'y passe. Est... Alors, moi, je voulais quand même, Rachidi, te demander si tu étais au courant de ce qui se passe là-bas, de cet événement ou pas. Alors, si tu l'étais pas, bon, ben, voilà, c'était
maintenant,
aussi
oui.
Pour voir qu'est-ce que ça te fait d'apprendre qu'il se passe quelque chose comme ça, pas loin d'ici, du tout.
Oui, c'est vrai qu'il y a un proverbe qui dit qu'aider son voisin à éteindre le feu chez lui, c'est parce que si le feu finit de brûler chez lui, ça peut aussi passer par le mur ou bien chauffer tes murs et puis brûler chez toi. Donc, aide-lui à éteindre son feu avant que le feu n'arrive chez toi. Et si c'est pour dire si ça se passe juste à côté de nous ici et qu'on ne peut pas participer, il faut savoir petit à petit, ça va nous arriver. Parce que c'est comme une toile d'araignée. Plus on ne l'enlève pas, plus il s'éparpille et plus il prend tout. Donc, on a tous le devoir de participer à ça.
Ouais, c'est ça. Et puis, si en gros, vous voyez la forêt amazonienne ou les forêts équatoriennes brûler et vous dites, oh là, c'est scandaleux, bah, vous en avez une là, dans le Tarn, quoi. Donc, c'est bon, à moins d'une heure de route, peut-être faire un saut.
Tout aussi riche pour sa biodiversité.
En plus, ouais.
Et ça fait moins loin.
Un dernier truc, peut-être pour dire, parce que vous allez certainement entendre, je vais faire court, parler de compensation. C'est-à-dire qu'on détruit une zone humide, mais on en recrée une plus grande. Pour vous juste vous donner une image, la compensation, c'est comme si on vous dit on bousille la cathédrale d'Albi, classée à UNESCO, et on construit cette petite chapelle. Et bien là, on a bousillé la zone humide et on va construire sept fragments, certes un peu plus grands en superficie, mais tout ce qui était dans cette zone humide centenaire, c'est perdu. Donc, pour vous informer, collectif-testé.org, tant qu'il y aura des bouts.wordpress.com, et puis bah, quand même auto-promo, parce que allez voir sur reporter.re.net. Tout ce qu'on a écrit là-dessus pour pas qu'on ait bouté que pour rien. Voilà.
Ouais. Greg, merci beaucoup pour ton intervention. Comme je peux le constater, tu connais ton sujet sur le bout des doigts, ça fait rêver. Voilà. Donc Grégoire Souchet, le frère du célèbre cuistot sud-africain, bien sûr. Merci encore.
Merci.
Vous écoutez toujours Au cul de l'église en direct depuis les studios de Radio Sainte-Afrique. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec Orange Blossom et on se retrouve tout de suite après pour la fin de l'émission.
Shift El Coft d'Orange Blossom sur leur premier album. Et je tiens quand même à signaler aussi qu'ils ont sorti donc quasiment 10 ans plus tard, si je me plante pas, leur second album qu'on vient de recevoir à la radio, qui est excellent aussi. Voilà, pour terminer.
Il sera sûrement dans les bacs bientôt.
Il est déjà dans les bacs de Radio Sainte-Afrique, bien sûr. Ouais. Pour terminer cette belle émission, écoutez, je vous suggère d'écouter un petit papier que notre cher Shams, aka Pierrot, nous a concocté. Shams, je te laisse les commandes.
D'accord. Bon, bah, cette chronique va un peu, je pense,
plomber l'atmosphère.
Voilà. Changer d'atmosphère.
T'inquiète, on est là.
Ça va refroidir un peu, tellement il fait chaud.
Et je sens qu'on va m'attendre au tournant, donc je vais essayer de déblatérer le plus vite possible.
On t'attend déjà au tournant, de toute façon.
De manière à ce que personne ne puisse comprendre ce dont je parle. Donc voilà, je vais vous lire une petite chronique que j'ai écrite il y a quelques temps. Il y en a pas mal que j'ai écrit, mais celle-là me tenait particulièrement à cœur. Elle s'appelle L'Appel du Sang. Je vous le dis, ça va être un petit peu trashos sur les bords. Attendez-vous à quelque chose d'assez spécial.
On s'assoit.
Donc voilà, L'Appel du Sang. La seule soif inextinguible dont l'humain ne peut s'assouvir, il semble d'après l'histoire depuis les premiers écrits, que jamais l'homme n'a pu se défaire du vice le plus immonde qui soit à mon égard, la soif de sang. Ce sentiment d'exaltation, ce bouillonnement, cette furie qui coule dans nos veines, cette impression bestiale tirée de nos peurs les plus primaires, venue de nos ancêtres jusqu'à nous. Peu de gens aujourd'hui en sont conscients, et je suis triste de l'être, car à cette heure je pense qu'il est plus que nécessaire pour moi de comprendre l'origine, la naissance. Dans la colère et la folie de cette émotion, de ce désir morbide qui anime tant d'hommes depuis un temps où la plume n'était pas encore de ce monde. Qu'un seul se présente devant moi pour me dire qu'aujourd'hui l'homme est civilisé, qu'il ne répond point à ce besoin avilissant, que nous ne sommes plus au Moyen-Âge, à nous repaître d'images glauques, à boire goulûment le spectacle de la mort, et puis, obnubilé par ces défis édifiantes visions, jouir jusqu'au délire par la seule sensation d'être cette main arbitraire, d'exécuter cette ultime sentence, d'avoir ce pouvoir subtil, sournois, ce pouvoir qui monte à la tête de tant d'hommes politiques, le pouvoir de la décision, décider de la vie ou de la mort d'une personne, puis de plusieurs, et d'un pays, et peut-être même du monde. Ainsi est né le guerrier, car rien ne l'empêchait de s'imposer. Tout comme le gladiateur saignait pour le peuple, ou le comédien imprégné de sauce tomate meurt sur scène, il pense qu'il a un rôle, exécuter la sentence. Mais cela ne suffit pas. Un jour, une autre manière de penser a surgi et a arrêté la lame. Il faudrait pouvoir décider de la manière de penser, de vivre de son prochain. Et là, ce n'est même plus comment tuer quelqu'un car il n'a pas la même opinion que vous, mais comment le plier à sa volonté pour qu'il puisse obéir au moindre de vos ordres. Pour qu'il rejoigne votre façon de penser, votre manière de vivre. Pour que tous reconnaissent votre supériorité, votre intellect, car selon eux, c'est vous qui pouvez juger et établir une loi qui fasse en sorte que les gens vivent en harmonie de façon logique et rationnelle. Ainsi est né le chef militaire. Mais ce même chef, me direz-vous, a pensé un jour qu'il était mieux et plus satisfaisant que de faire plier sous leurs ordres et juger ceux que sont devenus le peuple, il pouvait désormais les mener ensemble pour agir dans un intérêt commun, de les coordonner pour les mener comme un seul et même homme. Ainsi est né le roi. C'est pourquoi les actuels présidents, chefs et tyrans de ce monde, pour réussir à mener le peuple, jugent de manière efficace, et pour que celui-ci reste dans les rangs et démontrer la puissance de leur jugement, ils se sentent obligés de mettre à mort. Et de cette mort s'est entretenue cette soif de sang. Ce besoin d'être supérieur et de juger l'acte d'un tel ou un tel figé dans la contemplation d'un pouvoir supérieur venant de la hiérarchie. Mais aujourd'hui, il y a deux manières de montrer le sang pour faire peur aux pauvres moutons que nous sommes. Grâce soit rendue à notre âge contemporain. Nous pouvons décapiter un journaliste devant une caméra et afficher la vidéo sur le net, ou bien faire semblant de tuer un comédien en mettant encore plus de sauce tomate, encore plus d'expressions de souffrance, de violence, en faire un film ou une série en usant de suspense, de stratagèmes pour surprendre l'œil et l'esprit. Et c'est pourquoi je pense que cette deuxième manière de choquer est plus efficace. Car c'est seulement à ce moment-là que la vidéo prend tout son sens. La banalisation de la violence permet à la seule vue d'un homme décapité d'imprégner totalement cette peur, bien plus que si vous n'êtes pas habitué à voir du sang, qu'il soit faux ou qu'il soit vrai. Et ce, sans que vous en soyez forcément conscient. Ainsi, le cinéaste fait couler le sang de toutes les manières qu'il soit pour en nourrir les hommes, devenus ivres de violence devant les arènes télévisées de nos temps modernes. Pour toutes les tranches d'âge, la violence excite et rend fou quiconque se laisse absorber par la peur inconsciente ou non de ce qu'elle anime. Puis, Elle permet, par sa seule sensation, à la loi de s'appliquer, en se servant de nos peurs et ainsi nous mener. Car la manipulation de base s'appuie toujours sur la peur. Cela, n'importe quel psychologue, mentaliste, hypnotiseur, connaît cette constante fondamentale. Il est donc normal que n'importe quel chef, entre guillemets, le sache également. Et ceux-ci n'ont plus besoin de nous nourrir de ces émotions. Nous avons appris à chercher cette nourriture. Car ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que ces fameux rois, lorsqu'ils sont devenus là de contrôler le peuple dans la solitude, ils se sont réunis pour régner ensemble. Ainsi est né le gouvernement, ainsi est né l'État.
James, merci beaucoup, excellent papier, bravo encore.
Merci.
Bravo à tous d'ailleurs, merci beaucoup d'avoir été là ce soir, présent pour...
Mais c'est un plaisir, mais Antoine, pour toi...
Non mais voilà, j'ai entendu beaucoup de sagesse dans tout ce qui a été dit, beaucoup d'humanité, et je vois des sourires sur tous les visages, donc moi ça me rend heureux, puis ça va me pousser à continuer. Sans parler d'interventions impromptues des uns et des autres.
Ah, enfin les filles.
C'est du vrai direct.
On a même les filles.
Dans le studio là.
Il va quand même falloir récupérer un petit peu l'antenne juste pour la passer à notre cher Fred qui va vous proposer pendant une heure un live. En vinyle, complètement en live et tout en analogique, donc on lui tire bien bas notre chapeau. Je le vois qui est chaud en régie là, ça va y aller pendant une heure. On se retrouvera peut-être pour un petit mot ou deux.
Allez Fred,
détour d'un morceau. Merci à tous, bonne soirée et bonne écoute pour le live de Fredo.
Merci beaucoup.
Ciao.
Au cul de l'église.
Ouais mon gars.